Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 49 de ce vendredi 29 mars, vendredi saint. Et non, nous ne parlerons pas de bagarre. Les gars de la presse sont avec nous, Guillaume Lefrançois, salut Guillaume.
Salut JR.
Nous avons Richard Labbé qui est là, salut Richard.
Bonsoir Jérémy.
Et pour le 98.5 FM, Antoine Roussel qui est avec nous, salut Antoine.
Salut les gars.
Bon, les gars, je donne un petit résumé de quoi on va jaser. Évidemment, on va revenir sur cette victoire du Canadien de Montréal 4-1 face aux Flyers de Philadelphie. On va se parler des Bruins, des Hurricanes, des Panthers, des Stars et des Rangers qui ont déjà confirmé leur place en série de fin de saison. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces formations-là? On va essayer de voir. En fait, on veut voler des trucs, puis on va envoyer ça aux Canadiens. On va dire, regarde, c'est comme ça que ça marche. Dans les autres points, on va parler de Martin Brodeur qui dit, on est un peu permissif avec nos gardiens de but. Il me semble qu'il serait capable d'être dans le filet plus souvent. Je vais avoir votre point de vue là-dessus. On va se parler de la Ligue d'hockey junior maritime du Québec en français, s'il vous plaît. Et on va se faire un petit spécial du Vendredi Saint et on va aller faire un tour à travers la Ligue nationale d'hockey. Mais pour l'instant, on revient sur cette troisième victoire de suite. Le Canadien qui l'emporte 4-1 face aux Flyers de Philadelphie. Je commence avec Guillaume, puis les gars, je vais vous entendre là-dessus. Ça veut dire quoi, gagner trois matchs de suite chez le Canadien quand que la saison vaut plus grand-chose, veut plus rien dire? Est-ce que ça a une signification quelconque?
Ben, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le côté moral derrière tout ça. Quand une équipe sait qu'elle a été éliminée depuis à peu près le mois de janvier, la fin de saison, ça peut être long. Ça peut être une longue traversée du désert. Je pense que l'expérience d'Antoine là, pourra nous le dire, lui, de l'intérieur. Mais nous, en tout cas, de l'extérieur, c'est ce qui, c'est l'impression qui peut en ressortir parfois. Et puis, quand on regarde les pointages ailleurs, quand on regarde Anaheim, qui est plus capable de marquer un but depuis trois semaines, des choses comme ça, tu dis, mon Dieu, ces fins de saison-là, l'ambiance, autant pour les joueurs que pour les amateurs qui payent des billets pour aller voir ça, ben c'est pas chic. Donc je pense qu'à la base là, juste ça de autant pour les donc autant pour les amateurs que pour les joueurs, je pense que c'est quand même important. Le Canadien joue ces matchs-là contre des équipes qui sont dans la course aux séries. Donc mm-hmm. Tu sais, il y a un enjeu de l'autre côté, tu as peut-être pas un enjeu toi directement au classement, mais l'autre côté a un enjeu, donc ça fait des matchs compétitifs et tu sais, je pense que c'est quand même pas mauvais non plus que le Canadien, que particulièrement les jeunes vivent un peu cet environnement-là de match compétitif, même à un moment où il n'y a plus d'enjeu au classement.
OK, Richard, je t'entends dans quelques instants, mais je vais aller à Antoine immédiatement. Antoine, de l'intérieur, ça veut dire quoi quand tu en gagnes trois de suite, quand la saison est terminée, tu n'iras pas en série de fin de saison?
Ben, c'est ça que c'est encourageant. C'est encourageant pour les joueurs, c'est encourageant pour l'organisation, pour les coachs, parce que tu sais que tu gagnes contre des bonnes équipes. Il y a une certaine valeur, il y a une valeur dans le fait que tu gagnes contre des équipes qui veulent rentrer en séries éliminatoires et les points sont importants. Donc, c'est pas des matchs donnés, si on peut dire ça ainsi. Mais en tant individuellement pour les joueurs, c'est vraiment important parce que tu te places les pieds aussi pour la saison prochaine. Puis, ce que tu fais en ce moment, tes pieds, t'es encore juvé. Donc, en tant que joueur, faut que tu sois capable de pousser la machine jusqu'à la fin, malgré le fait que tu sais que tu feras pas les séries, mais que tu travailles pour ta prochaine saison, tu travailles pour ton prochain contrat, tu travailles pour être sur l'équipe l'année prochaine. Donc, c'est vraiment important. Puis, de gagner des matchs comme ça, ben ça ouvre les yeux des dirigeants, puis ça fait en sorte que certains joueurs qui étaient peut-être dans une bulle où on n'était pas sûr de ce qu'on allait faire avec eux l'année prochaine, ben maintenant on est capable, ben pas maintenant, mais on peut-être l'élastique, on va les tirer encore un petit peu plus longtemps, peut-être qu'on va changer notre fusil d'épaule. C'est juste du bonbon, c'est juste du plus. Donc du plus, c'est jamais négatif, bien évidemment. Et c'est ça que les joueurs ont besoin, malgré qu'ils ne font pas les séries.
Bon, écoute, Richard, maintenant, je veux savoir, toi, t'es un gars, encore une fois, tu dis souvent que t'es réaliste.
Oui.
Trois victoires. Au moins, cette année, il n'y a pas eu de séquence de sept défaites. Là, on colle trois victoires de suite pour la première fois de la saison. C'est un point positif. On est obligé de dire que c'est positif, là.
Ben oui, absolument. Puis je pense que Martin Saint-Louis peut prendre ça. Tu mets ça dans ta poche de veston, puis tu ressors ça l'année prochaine. Je pense que c'est important pour la suite des choses. Écoutez, on a vu récemment contre le Canadien les Canucks de Vancouver. Puis tu sais, je pense, et j'ai entendu une couple de joueurs des Canucks parler de ça. C'est intéressant ça aussi parce que l'an passé, Canucks, c'était un club de 22e place au classement général. Au moment où on se parle, c'est un club de 5e place au classement général. Et je suis allé voir l'an passé, souvenez-vous, en fin de saison, les Canucks ont eu quelques éclaircies. À un moment donné, au mois de mars, ils ont eu une séquence de 5 victoires de suite. Ils ont fini l'année avec 4 victoires à leurs 5 derniers matchs. Et je pense que ça peut donner un air d'aller pour la saison qui s'en vient. Évidemment, on pourra me dire que c'est pas la même formation. Puis je pense que les Canucks sont un défenseur de 81 points que le Canadien aurait pu choisir, mais qui l'a pas fait, ça, c'est un autre dossier.
mais ils ont changé de coach aussi même moment l'année dernière. Puis Rick Tocchet s'en est envenu. Puis ça a fait toute la différence dans l'état d'esprit de l'organisation, je pense aussi.
Oui, ça là. Mais on met tout ça ensemble. Puis tu sais, je pense que la façon... Tu sais, les Canucks, l'an passé, sont allés en vacances avec un état d'esprit où ils pouvaient se dire, ben, écoutez, on est capable de compétitionner, on est capable de gagner des matchs, on est capable de coller des victoires, on vient de le faire. Et là, ben, je pense qu'il y a moyen de prendre ça et d'arriver au mois d'octobre avec ça en tête, puis te dire, ben, regarde, on l'a fait, on est capable de le refaire. Alors, moi, je pense que, oui, tu sais, dans un cas où la saison est perdue, immédiatement, ça ne veut rien dire, mais je pense qu'à long terme, Martin Saint-Louis peut se servir de ça et amener ça avec lui, avec ses joueurs pour l'année prochaine.
Ouais, d'ailleurs, dans le point de presse après le match, il y en a un qui a demandé, est-ce que vous allez bâtir là-dessus pour le camp d'entraînement? Il fait là, attends une minute. Là.
On parlera pas du camp.
On a des matchs à jouer avant ça, on n'est pas rendu au camp d'entraînement. Un qui s'est signalé dans le match hier, encore une fois, c'est Nick Suzuki qui a atteint le plateau des 30 buts cette saison. C'est la première fois depuis 2018-2019 qu'il y a un joueur du Canadien qui marque 30 buts, le dernier étant Brendan Gallagher. Et là, c'est Martin Saint-Louis j'ai l'impression qu'il se posait la question en répondant dans le point de presse en disant, est-ce que Nick Suzuki a atteint son plafond? On parle toujours du fameux plafond, le maximum qu'un joueur peut te donner. Selon vous, puis je fais un tour de table, je commence avec Guillaume, est-ce que Suzuki a atteint son plafond?
Faut se méfier. Tu sais, il y a quelques années dans la Ligue nationale, là, quand les Austin Matthews, Connor McDavid sont arrivés, Mitch Marner... Ça a comme créé cette impression-là que des joueurs à 19, 20 ans pouvaient avoir tout de suite un impact immédiat et qu'il y a moyen d'avoir des vedettes de cet âge-là. Ben, j'ai fait le tour, tu sais. Je vais te nommer quelques noms comme ça, puis c'est des joueurs qui sont dans le top 20 de la Ligue nationale cette saison. JT Miller, sa première saison d'un point par match, là, il l'a eu à 26 ans. Sam Reinhart, 26 ans. Philip Forsberg, à 27 ans. Je veux dire, le développement au hockey, c'est long. Puis même, là, il n'est pas dans le top 20 cette année, mais Mika Zibanejad, comme les trois autres, c'était un gars qui avait des saisons de 55, 60 points, 65 quand ça allait bien. Et même chose, à 26 ans, paf, là, il est devenu un joueur d'un point par match. Tu sais. Donc, c'est ça qu'il faut pas oublier. Là, je veux dire, là, oui, tu sais, Nick Suzuki est arrivé à 20 ans, donc tu sais, ça fait longtemps qu'on le voit aller. Il demeure encore jeune. Il peut quand même, et c'est toutes ces exemples-là que j'ai donné, ben le prouve, mais après 25 ans, il y a une évolution qui est encore possible. Donc, tu sais, c'est pour ça que c'est très dur à dire. Puis en plus, Suzuki est entouré de joueurs plus jeunes que lui, donc de joueurs qui, eux, non plus, dans son cas, c'est Suzuki et c'est Caulfield et Slavkovski, des joueurs qui, eux, non plus, n'ont pas atteint leur plafond. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très difficile de se prononcer là-dessus. Mais je veux dire, on regarde d'ailleurs dans la Ligue et on voit plusieurs joueurs comme ça qui continuent à progresser même après 25 ans, ce que Suzuki va avoir cette année.
Moi, je veux savoir, je vais y aller avec Richard. Richard, est-ce que ce gars-là peut encore s'améliorer? Est-ce que Suzuki peut s'améliorer? Il y a quoi? Il y a 24, là, présentement?
Exact, il y a 24, va avoir 25 ans cet été.
OK, va avoir 25 ans. Ce gars-là, est-ce qu'il peut encore s'améliorer, selon toi, Richard?
Oui, je pense que oui. Puis la raison, c'est lui-même, en partant, évidemment, lui, comme on vient de le dire, là, est encore très jeune dans la force de l'âge. Et c'est intéressant parce que ces chiffres ne vont qu'en augmentant. Il est arrivé en 2019-2020, 41 points, 41 points, 61, 66, 69 maintenant. Bon, okay, la flèche, elle va toujours vers le haut. Ça, c'est bon. Deuxième chose, éventuellement, en tout cas, c'est ce que le Canadien doit faire, mais je pense que ça va finir par arriver, mais éventuellement, toute la pression de produire offensivement va pas seulement aller vers le premier trio. T'sais, éventuellement, je pense que chez les Canadiens de Montréal, on va finir par avoir un deuxième trio qui va être dangereux. Si Kirby Dach reste en santé, s'il devient le joueur que l'on pense qu'il va devenir, je vais rajouter Newhook là-dedans, qui est encore capable, lui aussi, de progresser. T'sais, éventuellement, je pense que la production, la charge offensive sera pas seulement l'affaire d'un seul trio. Éventuellement, les adversaires, en particulier sur la route, vont pas être obligés seulement de surveiller le trio de Suzuki. Puis ça, ben, je pense que ça va lui enlever un fardeau à lui et à ses deux compagnons de trio. Et ça va faire en sorte qu'il va probablement se retrouver à un moment donné avec des confrontations un peu plus favorables. Et ça, ben, ça va pouvoir faire en sorte que la flèche, la production offensive va continuer de monter vers le haut. Alors moi, je pense que, et ça, c'est de bon augure pour le Canadien, pour ses partisans. Je pense que Suzuki est capable de faire mieux. Puis à un moment donné, je lui parlais il y a deux semaines de la saison de 80 points d'Alex Kovalev. Puis il m'a dit, écoute, je pense pas trop, mais c'est sûr que c'est un beau chiffre. Alors, tu sais, je pense pas, mais en même temps, c'est sûr que j'y pense un petit peu. Il est capable, je pense, d'être ce gars-là d'un point par match. Et probablement, il ne sera pas cette année, il va finir par manquer de temps. Mais je pense qu'éventuellement, il va devenir ce joueur-là.
Antoine, de ton côté, comment tu vois ça?
Ben, écoute, si tu me permets de se tirer la pipe un petit peu, j'ai déjà entendu sur ce podcast ici que Dick Suzuki, c'était pas un centre numéro un. Je l'ai entendu, puis je pointe personne du doigt, là, mais tabarouette, je l'ai entendu pas à peu près. Fait que là, c'est du velours pour mes oreilles d'entendre que Richard me dire que finalement, on a un gars de probablement d'un point par mois, par match. Donc, je suis vraiment content, puis j'abonde en plein dans le sens de Richard, du fait que moi, je pense que s'il va faire 80 points, je pense qu'il va toucher à 100 points. Il y a à peu près 3-4 mois, j'ai dit ça, d'ici les 18 prochains mois. Je pense pas qu'il va faire 100 points l'année prochaine, mais sincèrement, je pense qu'il va le faire d'ici l'année d'après. Tout dépend du support qu'il va avoir. Parce que les joueurs, mis à part Kucherov, qui touche à 100 points, ils ont tous une grosse équipe. Ils ont beaucoup de profondeur et ils ont énormément de support. Chose que Nick Suzuki n'a pas nécessairement pour le moment. Donc, ça va s'en venir avec une acquisition que tu vas faire sur le marché des joueurs autonomes. Un autre jeune joueur qui va continuer de se développer. Une à deux acquisitions peut-être. C'est comme ça que tu vas améliorer ton équipe rapidement, puis faire en sorte que ton deuxième trio, tu vas avoir un bon deuxième trio, puis même que ton troisième trio va te tirer vers le haut également, un petit peu comme le troisième trio des Canucks, qui, quand les meilleurs joueurs ne performent pas, sont capables de tirer le club aux autres aussi un petit peu. Donc, il te manque peut-être 4-5 joueurs à l'attaque pour avoir une bonne équipe. C'est pas tant que ça quand tu regardes ça. C'est une ou deux transactions. Puis finalement, un peu comme tu le disais, les Canucks étaient 22e l'année passée. Puis pouf, ils se sont replacés cette année. Fait que ça peut être moins long et en l'espérant pour les Canadiens que ça soit moins long que ça d'avoir des présences en séries éliminatoires. Mais du moins, faudrait que ça se batte l'année prochaine pour que ça soit dans la course en ce moment. Pour les séries.
4-5 joueurs, c'est quand même pas banal. Là. C'est pas tu lèves une roche, tu en trouves 4-5. Là. Il faut que tu travailles.
Non, mais c'est pas si long que ça. T'sais. On parle pas de. T'as des positions qui sont quand même intéressantes. En défensive, le Canadien va éventuellement. Puis il y a des bons joueurs, il y a une congestion. Je le regarde, je me demande comment ils vont faire pour imbriquer tout le monde. Quand je regarde à l'attaque, ben tu sais, t'as trois quatrièmes trios en ce moment. Tu sais, c'est difficile, c'est plus difficile. Mais t'as un bon premier trio. Donc éventuellement, t'es quatrième trio, tu vas avoir de la congestion, tu vas avoir un bon quatrième trio. T'as un ou deux joueurs équivalent à troisième trio. Faut que tu trouves un deuxième trio dans cette équipe-là. Puis peut-être que j'étais un peu fort quand j'ai dit trois troisième trio, parce que New York, qui est quand même capable de jouer sur un deuxième, sur un top 9 assurément dans une équipe de la Ligue nationale et de performer de produit.
Bon, écoutez, Richard écrivait hier, en faisant référence à Suzuki également, qu'il y a peu de joueurs du Canadien qui peuvent célébrer en cette saison, qui sera sensiblement au nombre de points la même chose que l'an passé. T'as dit Suzuki est peut-être le seul, donc, qui pourrait s'ajouter sur cette liste de fêter parce que lui, sa saison est bonne. Mais là, je suis en train de me dire, il y a assurément d'autres noms qu'on est capable de mettre là-dedans. Richard, il n'y a pas juste Suzuki, là.
Non, je n'ai pas dit qu'il était le seul, d'ailleurs. Je t'invite à relire le texte comme il faut.
J'ai de la misère, j'ai mal. Moi, ça me prend des lunettes pour ça, l'histoire.
Mais, seulement jeudi soir, il y a un autre nom qui s'est ajouté. Déjà, ça allait bien. Là, avec 3 points, ça va encore mieux. C'est évidemment Mike Matheson, c'est qui a été, je pense, un défenseur... Si on veut parler de constance, de relance de jeu cette saison, de temps en temps, oui, il y a eu des lacunes dans son territoire, mais moi, je suis prêt, et je pense que Martin Saint-Louis aussi, à vivre avec ces lacunes-là, parce que ce que Matheson te donne en relance, ce qu'il te donne en production offensive, le 51 points maintenant, je pense que lui, son nom à lui, s'ajoute à ceux là, qui peuvent dire « mission accomplie cette saison ». Il y en a quand même quelques-uns. Même Caden Primo, c'est seulement son 18e match. C'est très petit jeudi soir, là. 18e match de l'année, c'est un petit échantillon, Mais il donne espoir lui aussi. Il permet de croire que ce club-là, devant le filet, l'an prochain, ça va aller. Tu sais, je pense que Montembeau est capable d'être le numéro un. Et on voit Primo qui prend du galon, qui me disait, jeudi soir après le match, je estime être un bien meilleur gardien maintenant qu'au mois d'octobre. Je pense que c'est vrai. Je pense que clairement, il est en train lui aussi de prendre du galon. Donc, tu vois, t'as quand même des. Tu parles des résultats d'équipe, Jérémy, puis c'est vrai, là, ça va être à peu près similaire à ce qu'on a vu l'an passé au classement. Mais moi, si j'étais un partisan du Canadien, je me raccrocherais à ça. C'est-à-dire qu'il y a au moins individuellement des joueurs comme ceux que j'ai nommés qui ont fait des pas en avant. Et ça te permet d'être optimiste un peu quand même pour la prochaine saison.
Guillaume, est-ce qu'on ajoute quelques noms à ça? Donc, il a dit Suzuki, Matheson, a parlé de Primo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent en tête?
Ben, j'avais Primo sur ma liste aussi. Puis, tu sais, Richard parle d'un petit échantillon de 18 matchs. Les trois saisons précédentes, là, Kaden Primo avait joué dans 19 matchs en tout. Et dans ces trois saisons-là, ben, il y avait son efficacité était de 8,62. Ça, 862, là, c'est une mauvaise saison pour Darren Pang dans les années 80. Donc, je veux dire, ça allait vraiment pas bien. Alors que Kaden Primo se retrouve aujourd'hui a joué pour 913 sur un échantillon de, c'est ça, 18 matchs. Donc, c'est pas un échantillon de gardien à temps plein, mais c'est un échantillon de gardien numéro 2 correct de la Ligue nationale. 913, c'est vraiment au-delà de toutes les attentes parce que toutes les fois qu'on le voyait dans la Ligue nationale ces dernières années, il avait l'air complètement perdu. Alors, moi, Primo, je trouve que c'est en train de devenir quand même une des bonnes histoires pour le Canadien cette année. Puis sinon, Juraj Slafkovský, j'ai fait l'exercice parce que son regain de vie a commencé plus ou moins à la mi-décembre, c'est-à-dire quand le Canadien est parti sur la route pour son long voyage habituel. Alors, j'ai reculé et dans le fond, à ses 41 derniers matchs, ce qui est exactement une moitié de saison, bien, il est à 33 points. Alors ça, c'est 66 sur une saison complète. C'est franchement impressionnant. Donc, tu sais, le chiffre final de Slafkovský sera peut-être pas si impressionnant parce qu'il y avait eu beaucoup de difficultés en octobre, en novembre, mais ce rythme-là que l'on voit sur une moitié de saison, je pense que c'est également très encourageant pour le Canadien.
Donc, Suzuki, Matheson, Slafkovský, Primo, Antoine, est-ce que tu rajoutes d'autres noms sur cette liste-là?
Ben écoute, j'abonde tellement avec ces noms-là, j'ai envie de te rajouter Struble. Pour moi, Struble, c'est une victoire cette année. On parle d'un gars qui sort de nulle part, que personne n'avait venir, puis finalement il arrive, il s'établit et de la manière dont il joue, pour moi il va rester avec le Canadien un bout de temps. Tu peux pas te. Puis on commence à voir un aspect, un flair offensif aussi à son jeu. Hier soir on l'a vu notamment avec plusieurs chances de marquer. Il reste impliqué en zone offensive. Pour moi il a un impact. Donc pour de vrai. Je l'adore. Je trouve que il patine excessivement bien. Et après encore quelques saisons, il va devenir encore meilleur. L'avenir n'est que positif dans son cas. Fait que moi, lui, je le rajoute à la liste. Mais Alex Newhook aussi. Alex Newhook est en voie de connaître au point par match une de ses meilleures saisons en carrière. Donc ça, c'est très, très, très positif. Et voilà, je te dirais que pour moi, c'est pas mal ça. Il y a quelques déceptions, un petit peu, mais on reste dans le positif. Okay. Jake Evans, pour moi, il reste aussi dans du positif cette année parce que il sécurise complètement le poste de centre de ton quatrième centre. J'aurais aucun problème à le voir là dans une équipe gagnante.
OK, mais là, vous êtes insensible. Bande de insensibles que vous êtes, le cœur, vous l'avez laissé à la maison aujourd'hui. Le gars a été cédé deux fois avec le Rocket de Laval. Joël Armia, honnêtement, là, Joël...
J'allais le nommer comme mention honorable.
Tu sais, sincèrement, là...
C'est pas... Tu sais, lui, dans son cas, c'est pas tant les chiffres parce
joue
que...
joue du gros hockey, là.
Ouais, non, ben c'est très, ça, exact. Très, très gros. Mais c'est hockey. Ça, c'est pour ça, tu sais, lui, ça se mesure pas nécessairement autant en chiffres. Tu sais, sur le même échantillon de 41 matchs dont je parlais, tu sais, Armia a super bien joué depuis au cours de cette période-là, justement, depuis la mi-décembre, mais c'est 15 points en 41 matchs, 9 buts, donc tu sais, c'est pas... c'est 30 points sur une saison complète. Pas de quoi écrire à sa mère, mais je pense que ça va vraiment au-delà des chiffres. Puis c'est surtout qu'on voit un joueur qu'on n'a jamais vu ce niveau de jeu-là de lui depuis qu'il est arrivé à Montréal. Donc, même si ça n'en fait pas pour autant un gars un marqueur de 25 buts, c'est quand même un beau projet de récupération que le Canadien a fait cette année.
Bon, mais merci Guillaume de nous donner un petit peu d'émotion et de cœur dans ces moments plus difficiles dans cette saison pour le Canadien. Avant qu'on enchaîne avec la suite des choses là, avec les Hurricanes puis les Panthers, juste juste mentionné que Caden Gooley a été convoqué au comité de discipline par le comité de discipline justement pour son coup de bâton sur Konechny pendant le match. Je pense que c'est à la fin de la deuxième.
C'est exact. Ça? Ouais, exact. De deuxième période. Donc, quand la sirène de la fin de la deuxième a sonné, d'ailleurs, on a vu les joueurs des deux équipes, ça jasait beaucoup sur la glace. Sur le coup, on comprenait pas, mais on a vu par après aux reprises que, dans le fond, c'est ça. Donc, Caden Gooley était au banc et il a littéralement dardé Travis Konechny.
Qui est sur la glace, lui.
Exact, exact. Donc, tu sais, des gestes comme ça, j'ai pas vu souvent ça, là, un joueur comme ça qui à partir du banc. J'étais dans le vestiaire des Flyers après le match. C'était très drôle, en fait, parce que les trois joueurs à qui on a parlé, qui étaient Scott Laughton, Morgan Frost et Garnet Hathaway, les trois vraiment ont condamné le geste. Personne nommait Goulet, mais les trois, là, je disais, c'est carrément, la Ligue devrait revoir ça, et c'est un geste salaud, et ça n'a pas sa place, et tout ça. Et on s'attendait évidemment à ce que John Tortorella en rajoute, mais on dirait qu'il parlait comme quelqu'un qui vient d'être suspendu, qui a reçu des amendes, et il voulait pas rien dire. Alors il a dit, je commenterai pas là-dessus. Puis c'est... Donc c'était quand même très drôle comme contraste. C'est garder une petite gêne. Ben les joueurs eux, se sont pas gardés la petite gêne. Alors ça promet parce qu'il faut rappelons que ces deux équipes-là se retrouvent dès la semaine prochaine.
Ouais, exactement. Et là au moment où on enregistre le balado, nous avons pas la sentence en tant que telle. Qu'est-ce qui va se passer du côté du comité de discipline? Mais Richard, c'est surprenant. Dans le cas de Goulet, il s'est fait ramasser une coupe de fois.
Ses derniers matchs, il s'est fait brasser le pommier.
Ouais, mais on pensait tous après le match, moi. Parlant de Guillaume, était du côté des visiteurs. J'étais dans le vestiaire du Canadien, puis j'ai posé la question à un joueur que je nommerai pas, qui est parti à rire, qui avait très bien vu le geste en question. J'imagine que c'est toujours plus drôle quand ça arrive pas à être coéquipier. Mais je pense que hier, c'est dit beaucoup de choses sur la glace. Il y avait beaucoup de tension jeudi soir sur la glace au Centre Bell. Et tout le monde pensait, en fait, que c'était Jacky, parce que ça a brassé un peu. Jacky a été au milieu de plusieurs mêlées. Mais de toute évidence, c'était Goulet. Puis c'est surprenant un peu, récemment, il a été au centre là, de certains jeux. Mais ça me surprend parce que c'est pas dans son caractère. C'est Jacky, j'aurais été moins surpris, mettons.
Non, clairement, mais dans le cas de Goulet, c'est vrai, ça arrive pas souvent. Antoine, je sais pas si tu as eu la chance de voir le geste de Goulet.
Hier, on l'a tellement... En fait, j'ai écouté le match à Chicoutimi, j'ai pas eu la chance d'être sur la galerie de presse hier soir, mais je me suis posé tellement la question qu'est-ce qui s'était passé en fin de deuxième période. Et finalement, on l'a appris aujourd'hui parce que je le savais pas nécessairement. Puis quand la nouvelle est sortie, c'est là que... on a pu voir un petit peu d'informations, puis c'est là que certaines vidéos ont ressorti, puis c'est là que moi je le vois, pas acceptable. C'est le genre de geste que tu veux pas voir Goulet, puis il fait partie d'ailleurs, on l'a pas mentionné tantôt, des gars qui a des très bonnes nouvelles de cette saison, mais dans ce cas-là, c'est inacceptable, tu veux pas voir ça, parce que après ça, c'est là que la Ligue elle peut perdre le contrôle, un match peut dégénérer complètement. Quand t'es sur le banc, t'es sur le banc. Quand t'es sur la glace, t'as un rôle à jouer, joue-le. Mais c'est tellement facile de jouer au tof sur le banc que quand de le faire sur la glace. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est pas le genre de geste que je veux voir. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce match-là. Le jeu était arrêté à peu près à toutes les fois. Les Flyers jouaient pour énormément hier. Donc, c'est dangereux, mais il faut être en mesure de garder son calme, même dans des situations les plus intenses.
Bon, Antoine, je reçois des textos en temps réel. Les gens me demandent, est-ce qu'Antoine, lui, a déjà donné un coup à quelqu'un qui était sur la glace pendant qu'il était sur le banc?
C'est pas un non catégorique.
Juste à dire, j'ai aucun texto en studio.
Non, ça, je le savais que t'avais pas de texto, mais je jouais le jeu.
Ah, ok, parfait.
Mais, écoute, il y a rien d'impossible, mais ça me surprendrait. Ça me surprendrait parce que, tu le sais que tu vas être suspendu quand tu fais ça. Que sur la glace, tu peux donner des coups de bâton. J'en ai donné des coups de bâton des fois, puis intentionnels sur des mains très fortes. Puis, j'ai pas été suspendu. Parce que quand c'est dans le jeu, c'est dans le jeu. Mais quand t'es à l'extérieur du jeu, ça n'a pas sa place. Surtout un coup de bâton qui a effet de tardage un petit peu de la manière dont Goulet a fait. J'ai mordu, j'ai fait d'autres affaires, mais ça, je suis pas sûr à 100% Je pense que je vais prendre le cinquième amendement américain. Okay. déplacer la question pour plus tard et essayer de m'en souvenir.
Okay. Ouais, c'est seulement mordu puis c'était dans le feu de l'action. C'est pas si pire, là.
Ben, écoute, hein, Richard, écoute, tu es au bureau. Ouais,
puis... c'était Marc-Édouard Vlasic. Après tout, son surnom, c'est Cornichon. Tu sais, c'est officiel.
Pickle! Pickle!
OK. Mais, t'es-tu en train de dire qu'il a couru après, c'est ça, là?
Une petite croquée.
Richard, tu n'as pas le droit de mettre ton doigt dans ma bouche quand je joue au hockey. C'est non. Ça, c'est non. Si tu mets un doigt dans ma bouche quand je joue au hockey, ben, il y a des chances que la panique s'installe et que j'ai un réflexe. Et moi, s'il y a quelque chose qui n'a pas d'affaire là, c'est bien ça. Je croque.
Est-ce que t'as été suspendu là-dessus? Je me souviens pas.
Non, j'ai pas été suspendu. Puis je pense que j'ai reçu une amende, 100 000 $. C'est quand même plate un peu. Mais écoute, c'était pas la meilleure bouchée rapport qualité-prix que j'ai déjà eu.
OK, allez, les gars, il y a deux matchs. Avant notre prochain balado, qui sera mercredi prochain, le 3 avril, il y aura deux matchs. Le Canadien va affronter les Hurricanes ce week-end et les Panthers de la Floride. Comment vous voyez cette séquence-là? Est-ce que la séquence victorieuse du Canadien va s'arrêter à 3, Guillaume?
Ben, est-ce qu'il faudra voir. Mais ce qui est intéressant pour le Canadien, c'est contre ces mêmes équipes-là. Rappelez-vous, dans le voyage, le dernier voyage que le Canadien a fait dans le sud des États-Unis, ben, pour une fois, le Canadien n'a pas mangé de volée là-bas. Alors, en ce sens-là, il y a quand même quelque chose sur quoi bâtir. C'est d'ailleurs une des autres choses que le Canadien peut tenter de faire en cette fin de saison, c'est d'essayer de chasser ses démons face à certaines de ses bêtes noires. Alors, c'est l'occasion de le faire, mais c'est ça. On a enfin vu le Canadien compétitif contre ces équipes-là du sud des États-Unis lors du voyage du début du mois de mars.
Richard, est-ce que la séquence de trois victoires s'arrête quand on va affronter les Hurricanes et les Panthers?
Écoute, je pense que les Canadiens vont en gagner une des deux. J'ai comme l'impression que les Hurricanes vont venir ici et vont gagner, mais... Canadien qui est capable de battre certainement les Panthers qui vont moins bien ces temps-ci, qui ont au moment de se parler, là, ils ont trois victoires seulement à leurs 10 derniers matchs. Donc, Canadien est certainement capable de battre cette équipe-là, mais je pense que le club va être, je pense, compétitif de toute façon, peu importe. C'est rarement un club qui est dépassé par l'adversaire. Là, on se retrouve chez le Canadien. À la maison après un long voyage. Alors, je pense que c'est tout est dans l'ordre du possible. Mais je m'attends. Je vais aller avec une défaite samedi, mais une victoire après.
Aïe, 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 que c'était pas clair, mon Richard. Hein?
J'ai dit que tout est possible.
OK, mais il y avait de la buée dans ta boule de cristal. Je pensais ça, tu essayais de regarder. Qu'est-ce qui va arriver? Antoine, est-ce que le Canadien arrête sa séquence de victoire à 3? Ben non, tu penses qu'ils sont capables de poursuivre contre les Hurricanes, entre autres?
Je pense qu'ils vont aller à 4. Puis, en fait, dans ta question plus tôt aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de 3 matchs consécutifs? En fait, c'est pas grand-chose. 3 matchs consécutifs, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est rien. Mais si tu tombes à 4, à 5, à 6, c'est là que ça peut être intéressant. Est-ce que c'est possible de battre les Hurricanes? Tout est possible. Ça sera pas évident. Il faudra que les joueurs jouent d'une manière qu'une équipe en série joue pour éventuellement gagner. Ça prend un état d'esprit vraiment précis puis conséquent.
Donc,
s'ils le font, c'est possible. Et moi, j'entrevois que oui, ils vont battre le Hurricanes.
Bon, mais écoute, comme Richard disait, tout est possible. Parfait, numéro 1. Comme le dit la Ligue de hockey junior maritime du Québec, everything is possible. On va en parler plus tard, soit dit en passant. On va s'arrêter là-dessus. Pour retour, on va se parler des Bruins, des Hurricanes, des Panthers, des Stars, des Rangers, déjà en série de fin de saison. Est-ce qu'il y a un point en commun de ces équipes? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 49 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé et Antoine Roussel. Messieurs, les Bruins, les Hurricanes, les Panthers, les Stars, les Rangers sont des séries. C'est fait. On a le X qui dit le X ou le Y dépendamment. Là, le Y n'est pas encore nommé, c'est champion ça. Mais on a le X pour les séries de fin de saison. Est-ce qu'on est capable, en regardant ces formations-là, de trouver un point en commun? Une formule qui s'applique à ces clubs qui sont dominants année après année. J'avais des statistiques. Écoutez bien, les Stars, c'est 5 années de suite. Les Panthers, c'est quoi? C'est 3, facile? 3 avec une finale de la Coupe Stanley. Les Hurricanes, c'est 6. Les Bruins, c'est 8. Comment se fait-il que ces clubs-là sont capables de gagner? Est-ce qu'il y a un point en commun? Je commence avec Antoine.
Pour moi, le point en commun, c'est stabilité. Stabilité en termes de joueurs. Il y a pas de, c'est pas les portes revolvers où il y a 150 joueurs qui rentrent par année, qui ressortent. Il y a ça. Stabilité au sein de l'équipe dirigeante, que ça soit à partir du directeur général et du coach. Ça, pour moi, c'est primordial dans le fait qu'une équipe reste au sommet. On peut penser à l'inverse. Regarde ce que les Penguins de Pittsburgh ils ont eu. Ils ont eu. On a changé de GM. Il y a eu 3 directeurs généraux dans l'espace de 5 ans. Puis ça fait en sorte que ton équipe elle a pas nécessairement de direction. Oui, les Penguins ils arrivent en fin de course, mais il reste que ça aurait pris une direction, une façon de voir les choses. Puis ça aurait fait en sorte que l'équipe aurait peut-être pu rester compétitive d'une meilleure manière. Et on n'a pas été capable de le faire parce qu'on a manqué de stabilité. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait en sorte que les équipes de tête ont en commun. Les Stars de Dallas, le GM, il est là, ça fait 12 ans. L'équipe qui l'entoure, c'est la même chose. Il y a très peu de changements. Ça fait que ton équipe est capable de vraiment se nourrir de ça puis de prendre des décisions à long terme. Et généralement, quand tu es capable d'insuffler des décisions à long terme à ton organisation et quand t'en prends des bonnes, ben ça fait ce que les Stars sont en train de faire, c'est d'avoir des jeunes joueurs qui arrivent sans être un top 10, de Ryan Johnston notamment, des Rupe Hintz, des Robertson, qui prennent le flambeau à des Jamie Benn, à des Tyler Seguin, qui sont encore capables, mais que c'est plus les meilleurs joueurs de l'équipe. Et ça fait en sorte que tu as une meilleure équipe. Donc, pour moi, c'est stabilité.
Donc, c'est pire en note pour Antoine, stabilité. Maintenant, Richard, est-ce qu'on est capable de mettre un point en commun entre ces formations déjà qualifiées pour les séries de fin de saison?
Oui, bien écoute, moi, je vois surtout des équipes dont les dirigeants ont pris de très bonnes décisions. Pour moi, c'est vraiment ça le point en commun. Tu sais, on parle souvent avec, évidemment, là, le plafond salarial, faut ménager les sous, faut dépenser l'argent intelligemment, faut être surtout très bon à la table du repêchage. Ça, c'est vrai. Mais souvent, faut que tu t'ajoutes un peu plus. Tu sais, souvent, tu peux bien repêcher, tu peux avoir des bons joueurs qui grandissent dans ton organisation, mais des fois, il te manque peut-être un ingrédient, deux, que tu peux aller chercher ailleurs, et ça fait toute une différence. Et pour moi, ce sont ces décisions-là qui expliquent le succès de ces équipes-là. Écoute, je regarde du côté de Boston, Pavel Zacha qui a été un choix des Devils. Je regarde Charlie Carr qui vient pas de Boston, qui a été un choix des Sharks de San Jose. Après ça, je m'en vais du côté des Canes, Sarah Vinen qui est le 4e compteur. Il vient de Chicago. Je vais rajouter Burns là-dedans, 39 ans, encore capable de jouer. Il arrive à 40 points. Du côté des Panthers de la Floride, les 3 premiers compteurs ne sont pas des gars de l'organisation. Ce sont des joueurs qu'on est allé chercher ailleurs. Évidemment, Reinhart, qui est le meilleur, qui est un produit des Sabres de Buffalo. Après ça, je regarde du côté des Stars, Matt Duchene. Il est le deuxième meilleur marqueur, évidemment. C'est pas un gars qui a été repêché par l'équipe. Pavelski, le vétéran, qui est leur 3e meilleur marqueur. Je m'en vais du côté des Rangers. Panarin, Trocheck, les deux premiers meilleurs marqueurs du club ne sont pas des produits de l'organisation. On descend un petit peu. Zibanejad, même chose. Alors, c'est important de bien repêcher, mais ce que ces clubs-là ont réussi à faire, c'est d'aller chercher les joueurs qui manquaient, qui étaient peut-être pas déjà sur place. On a vraiment identifié qui on avait besoin, qu'est-ce qui manquait, et là, on ajoute ça, ben ça donne ce qu'on a présentement.
Guillaume, de ton côté?
Bien, ça, j'allais dire, en termes de construction de formation, quand même, je vois quand même des petites différences. J'ai de la misère à sortir une tendance, c'est-à-dire que, tu sais, comme Boston, par exemple, historiquement, se sont toujours beaucoup bâtis sur un noyau qui était repêché, justement, leur Pasternak Marchand, McAvoy, Brandon Carlo, Jeremy Swayman, puis avant ça, Krejci, Bergeron, tu sais, donc ça, Milan Lucic, donc ça a toujours été très, très centré là-dessus. Tandis qu'effectivement, la Floride, on le sait, profite de conditions qui permettent d'attirer peut-être plus facilement des joueurs. Même chose avec les Rangers, justement, tu sais, quand t'as des Panarin, des Jacob Trouba, ben c'est des gars que clairement qui sont attirés par ton marché. Alors, en termes de construction de formation, je vois des différences, mais ce qui me frappe le plus, moi, de ces équipes-là, c'est qu'elles ont toutes un duo dominant à l'attaque. Alors, c'est Pasternak et Marchand à Boston. C'est Aouz Vetchnikov pour les Hurricanes. C'est Barkov, Kachuk en Floride. Robertson et Rupe Hintz à Dallas. Et chez les Rangers, Panarin. Et on peut mettre Kreider, sinon Trocheck cette année. Mais en général, disons, c'est pas mal Panarin, Kreider, là, je pense, ces dernières années. Donc, c'est vraiment un duo d'attaquants dominants dans une Ligue nationale qui est de plus en plus portée vers l'attaque. Je pense que c'est ça qui est important et c'est ce que les équipes doivent viser. Alors, c'est une des choses qui me frappe. L'autre chose, j'allais ajouter les gardiens. En même temps, bon, la situation des Hurricanes est moins claire. Mais les autres équipes, on le sait, Boston, c'est probablement le meilleur duo, Allmark et Swayman. Jake Oettinger, qui n'a pas une grande saison cette année, mais qui est quand même vu comme un des très bons gardiens de la nouvelle génération. Shesterkin avec les Rangers. Bobrovsky, qui a relancé sa carrière l'an passé. Alors, tu sais, c'est quand même des équipes qui sont également bien servies devant le filet.
Écoute, j'ai deux choses à dire. La première, c'est est-ce que Caulfield, Suzuki pourrait m'amener s'amener dans ce genre de duo-là?
Faudra voir. Ou ça sera peut-être Suzuki Slavkovski. Un jour, faudra voir.
Écoute.
Mais je te ramène sur mes chiffres de tantôt. 33 points sur une période de 41 matchs à 19 ans. C'est quand même.
Impressionnant.
C'est quand même impressionnant, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faudra voir, là, parce que là, tu sais, je veux dire, je pense qu'on est à 3, 4, 5 ans avant que. Peu importe qui sera le duo du Canadien, là, ce duo-là soit dominant comme les noms que je viens de nommer. Là. D'ailleurs, c'est ces gars-là que j'ai nommés, à part peut-être Vetchnikov, il n'y a personne là-dedans qui a été dominant à 21 ans, là, nécessairement. Donc, tu sais, il faut attendre voir. Je pense qu'on est à quelques années de ça. Mais ouais, non, alors.
OK, possibilité. Mais peut-être pas avec Caulfield. Oui, vas-y, Antoine.
Mais moi, ce que j'aime en plus de Slavkovski, c'est que hier, là, dans le match d'hier, quand la température elle augmente, hein, vous remarquerez, là. Il va pas se cacher en arrière. Il vient s'interposer. C'est comme dans sa tête, c'est le grand frère. Il rentre dans le tas. Il a vraiment pas peur. Moi, je trouve que c'est un gros point positif pour le Canadien supplémentaire à tout ce qu'il apporte déjà de vraiment cette présence-là. Il est capable de le faire.
Moi, je voulais ajouter punch à l'attaque, comme tu le mentionnais, Guillaume. J'ajoute rudesse à ça, comme vient de parler Antoine. Je pense que ça, c'est un club. Quand t'as ça, t'es capable de jouer en série de fin de saison. Si t'as pas la rudesse, t'es très bon en saison régulière, tu peux faire beaucoup de records, mais ça veut pas dire nécessairement que t'es capable de performer en série de fin de saison. Et moi, je vois dans les Bruins, les Hurricanes, les Panthers, les Stars et les Rangers, punch à l'attaque et rudesse. OK, hey, on va se parler de gardien de but. Je vais commencer avec Richard, le spécialiste des gardiens de but, lui qui les aime tant. Oui. Martin Brodeur parle qu'on chouchoute un peu trop nos gardiens de but. On donne pas assez de matchs. Il dit, à mon époque, c'était à 70 matchs par saison, puis on fait trop attention à nos gardiens de but. Est-ce que tu partages ton point de vue?
Ben, écoute, je pense que c'est toujours cyclique, ça. T'sais, je pense que il y a été un temps dans les années 70 où tu avais des gardiens qui jouaient beaucoup. Après ça, tu es arrivé dans les années 80 où tu avais plein d'équipes qui avaient de la misère à se trouver un numéro un. Alors là, ils étaient obligés d'avoir deux gars, des fois trois, pour se partager le boulot. Puis après ça, tu arrives dans les années 90, l'époque évidemment de Martin Brodeur, où là, tu ramènes des gardiens de but de premier plan qui sont capables de prendre des 70 matchs par année. Je pense que c'est cyclique. Puis présentement, dans la Ligue nationale de hockey, ces gars-là, tu les comptes sur les doigts d'une main. Là. Il n'y a pas beaucoup de gardiens de but qui sont clairement dominants à qui tu peux donner le filet pendant 70 matchs, 68, peu importe. Alors,
Vasilievski, sauf qu'il a été blessé au péril.
Ouais, puis t'as peut-être les bugs du côté des Jets, mais tu sais, regarde du côté du Canadien, tu sais, Montembeau, que je trouve très bon, mais je pense pas qu'il y a aucun scénario où Martin Saint-Louis, Kent Hughes, Jeff Gordon s'imaginent que Samuel Montembeau va engauler 70 la saison prochaine. Donc, pour moi, c'est très cyclique. Si jamais il y a un club qui repêche le gars de 6 pieds 3 qui est exceptionnel puis qui est capable d'en prendre 70 par année, on va peut-être lui donner le filet 70 fois par année. L'autre chose, tu sais, puis je l'ai dit avec tout respect pour Martin Brodeur puis ces gars-là qui étaient devant le filet dans les années 90. Maintenant, la position de gardien de but, l'aspect technique de la chose, c'est excessivement demandant, exigeant sur les hanches, sur le dos, sur les genoux. C'est rendu pratiquement impossible d'avoir un gardien qui passe 30 ans puis qui est capable d'être là 70 fois par année parce que il y a mal partout. Regardez, on a vu comment ça finit ça avec Carey Price, malheureusement. On l'a surtaxé, puis à un moment donné, il n'était plus capable. pas parce qu'il voulait pas, juste parce que la nature de la position, de la façon dont les gardiens de but se positionnent maintenant, c'est excessivement demandant sur les hanches et les genoux. Encore une fois, en tout respect pour Martin Brodeur, dans son temps, c'était pas la même chose. Les gardiens ne se déplaçaient pas de la même manière. On leur montrait pas les mêmes techniques de déplacement. Alors, je pense que c'est illusoire de penser que tu veux donner une charge physiquement comme celle-là à un gardien de but pendant 70 soirs dans la saison.
J'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour parler avec Antoine qui a connu le voyagement dans la Ligue nationale de hockey. Martin Brodeur joue pour les Devils New Jersey. C'est peut-être l'équipe qui voyage le moins aussi. Ça peut être un avantage pour lui d'avoir cette capacité-là, d'avoir 70 matchs sous la cravate par saison, Antoine.
Ben, c'est officiel parce qu'il y a des fois que les joueurs qui jouent dans l'Ouest, ils arrivent chez eux, il est 3-4 heures du matin. Faut que tu te prépares pour le prochain match qui est dans deux. Ben, généralement, c'est dans 48 heures. On joue pas tout le temps des dos à dos comme on l'entend souvent. Mais non, c'est clair que le voyagement a un impact indéniable. Puis moi, pour avoir joué dans l'Ouest et dans la Centrale, c'était plus difficile de jouer dans la Centrale que de jouer à Vancouver ou en Arizona. Parce que quand tu reviens chez vous, par exemple, tu joues au Colorado, tu reviens à Dallas, tu perds toujours du temps. Parce que le décalage horaire fait en sorte que, peu importe, le match va finir à 11 heures, ben, il est déjà minuit à Dallas. Fait que t'es toujours en train de courir après ta queue un petit peu, finalement. Puis c'est difficile et c'est exigeant sur le corps de les déplacements ainsi. Donc, les gars qui jouent dans l'Est, dans des marchés comme New York, où tu fais un petit 45 minutes d'autobus maximum, ben c'est très apprécié. Là.
Je sais pas s'il va nous écouter, là, mais je pense que Jean-Sébastien Juguet serait pas content d'entendre ça, Antoine, parce que je me souviens de lui quand il était avec Anaheim l'année de la Coupe Stanley. La finale pour eux en 2003, lui avait été élu
Ouais,
65 matchs cette année-là à lui seul, sans compter les matchs de série. C'était toute une charge de travail pour lui. Il l'avait fait, mais il fait certainement partie des exceptions.
Oui, Guillaume, tu l'as ajouté?
Oui, j'allais juste ajouter que ça me semble être une tendance irréversible. C'est-à-dire que quand les équipes se mettent à avoir accès à des données qui suggèrent telle et telle chose, ben en général, c'est ça, c'est dur de renverser cette tendance-là. Et j'ai tendance à voir un parallèle avec ce qu'on voit au baseball majeur avec les lanceurs partants ou l'époque des Dennis Holken Boyd qui pouvait lancer 300 manches par année, puis c'est fini. C'est vraiment fini ce temps-là. Par ailleurs, si on regarde les gagnants des 6 dernières Coupes Stanley, les gardiens qui ont gagné les 6 dernières Coupes Stanley, il y en a personne là-dedans qui avait joué 60 matchs dans la saison qui précédait. Celui qui a joué le plus de matchs son année de Coupe Stanley, c'est Darcy Kemper avec l'Avalanche. Il en avait joué 57. Mais pour le reste, c'était tout moins que ça. Il y a Vasilevski qui en avait joué lors de la saison de 56 matchs. Il en avait joué 42. Alors lui, il était sur un rythme d'environ 60 matchs, mais justement,
c'était une
saison écourtée, donc on pouvait se permettre d'étirer un petit peu plus élastique. Mais c'est ça, tu sais. Puis pour le reste, ben, il y en a que c'est des concours de circonstances. Le Hayden Hill l'an passé, Jordan Bennington en 2019, eux, c'était tout simplement des gars qui n'étaient pas nécessairement numéro un en partant, qu'ils sont devenus en cours de route, mais ça fait en sorte que ces équipes-là sont arrivées en série avec des gardiens qui n'avaient pas 62 matchs encore.
OK, les gars, je veux parler maintenant de la Ligue d'hockey junior maritime du Québec. Mini-scandale sur des chandails des Voltigeurs de Drummondville où c'est écrit play-off, puis pour le trophée.
Gilles Courteau Trophy.
Gilles Courteau Trophy. Là, on a mis ça sur les réseaux sociaux. Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois dit « C'est désolant de voir que le français il peut être massacré comme ça dans la Ligue d'hockey junior maritime du Québec ». On a réagi du côté de la Ligue en disant « Ouais, mais vous savez, c'est un processus, on est en train de les préparer pour s'en aller dans la Ligue nationale où ça parle beaucoup plus en anglais. » Et là, tout le monde donne son opinion là-dessus. Tout le monde. Vous ouvrez la télé, vous ouvrez la radio, vous l'avez entendu 100 fois, mais moi, c'est important pour moi qu'on prenne le temps à tour de rôle de me dire « C'est quoi votre point de vue là-dessus? » Puis je vais commencer avec Antoine. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi?
C'est vrai que c'est important de savoir parler anglais, mais moi, ce que caché des fois derrière l'excuse qu'on forme des joueurs pour la Ligue nationale, nombre de joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale, qui jouent dans la Ligue junior majeure du Québec, il y en a pas tant que ça. Puis il y en a de moins en moins. Donc, je trouve que c'est un petit peu ambigu de préparer la chose comme ça. Écoute, je suis arrivé de professionnel. Oui, c'était pas évident. J'ai appris mon anglais là-bas, sur place. Je trouve que c'est un petit peu... c'est vrai que dans le hockey, on a une tendance à être plus anglophone. C'est officiel. Tu as des coéquipiers anglophones. Mais faut pas que... Je pense que les deux ont leur place. Faut pas... Il y en a pas un qui a... on est au Québec. Oui, le français a plus sa place. Mais l'anglais aussi a sa place aussi dans un vestiaire... Dans un vestiaire, c'est pas l'un ou l'autre. Moi, c'est juste quand je vois le Gilles Courteau Trophy, tu sais, je me dis, c'est même pas ça le nom du trophée. Tu sais, c'est même pas ça. C'est que c'est ça, je deviens abasourdi que on change des choses comme ça. Puis au contraire, je trouve que pour avoir vécu l'anglais, le français, puis pour avoir été dans un vestiaire où il y a un trainer qui m'a déjà dit hey, ici c'est en anglais que ça se passe, alors qu'on était trois francophones puis qu'il y avait personne autour de nous qui parlait anglais. Faire de genre de réflexion là, ça m'avait tellement déstabilisé que soyons fiers de notre langue, soyons en fiers. Puis écoute, on parle français, c'est comme ça que ça se passe. Les autres aussi ils ont le droit de s'adapter, les Anglais aussi ils ont le droit de s'adapter aussi. Puis c'est bien correct. Les deux ont leur place. Pour moi, je suis pas tranchant dans le sens où faut que ça soit juste d'une affaire. Mais la vie est pas faite ainsi. Tu sais, il y a de la place pour les deux. Mais pour moi, quand t'es à Chicoutimi, ben tu sais, je m'excuse, ben, si t'as 18 gars qui parlent français dans l'équipe, puis que t'as 5 anglophones, ben c'est la masse qui l'emporte. Non, je m'excuse. Non, ça se passe globalement en français. Puis c'est à eux autres aussi de faire leur bout de chemin. Puis c'est comme ça que t'en as qui vont apprendre le français, et bien évidemment.
Et là, la Ligue dit avoir corrigé la situation avec Drummondville. On aurait fait faire des nouveaux chandails pour avoir justement série de fin de saison, le trophée Gilles Courteau, etc. Et là, on est allé plus loin. On a vu des photos du Blizzard du séminaire Saint-François. Ça, c'est midget, moi, M18. Et sur les murs du vestiaire, c'est marqué Victory, je sais pas trop quoi. Là, j'ai même pas les phrases, mais tu sais, les fameuses phrases là, no pain, no gain, là, toutes ces choses-là. Puis même on allait là en disant, tu sais, comment ça se fait que ces phrases-là sont en anglais dans un vestiaire qui est francophone, qui est le séminaire Saint-François. Guillaume, ton point de vue là-dessus?
Ben, premièrement, je trouve que ça aurait pu être une situation relativement mineure et ne pas créer toute cette tempête-là si tout simplement, à la base, le message aurait juste été, ben, regardez, les voltigeurs ont fait une gaffe sur ce chandail-là, là, parce que je veux dire, bon, tu peux très bien imprimer des chandails en français, puis même les anglophones de l'équipe ne seront pas moins fiers de porter ces chandails-là. Là. Donc ça, je veux dire, ça aurait pu rester...
Ou les mettre bilingues, à la limite.
Ou les mettre bilingues, peu importe, mais tu sais, ça aurait pu être un correctif très, très mineur, mais on dirait que ça a comme pris de l'ampleur, puis ça a comme parti sur plein de choses. Alors, tu sais, c'est quand même... disons que ça a pris des proportions qui n'auraient pas nécessairement été nécessaires. Là. Cela dit, bon, après ça, qu'on parle des rapports linguistiques, tout ça, c'est pas une mauvaise chose. Je trouve qu'Antoine, c'est intéressant l'éclairage que tu apportais quand ton anecdote avec le trainer qui parlait de...
Et qu'est-ce que t'as répondu, Antoine, quand le trainer t'a dit... Le soigneur, en passant, quand le soigneur t'a dit, ici, c'est en français, est-ce que tu répliques, est-ce que tu dis quelque chose?
Je me souviens d'avoir répliqué, je me souviens pas de ce que j'ai dit, mais j'avais dit hey, on est juste des Français ici, hein. C'est ça que laisse-nous tranquille. Puis je te dirais que j'étais quand même bien avancé dans ma carrière là, à ce moment-là, puis c'était pas dans la Ligue nationale, c'est pour les fins détectives, je m'étais fait descendre dans la Ligue américaine en but de me faire réhabiliter. Donc tu sais, je peux pas dire statut, mais j'avais déjà plusieurs années d'expérience dans la Ligue nationale où tu sais, je savais, puis j'étais plus un jeune qu'on se fait marcher dessus, nous. Donc j'étais capable de répondre, puis j'ai répondu parce que je sais que mes coéquipiers, eux, ils vivaient dans cette réalité là tout le temps, puis eux ne l'auraient pas nécessairement fait parce que des fois, tu veux juste pas allumer de feu. Tu veux juste, c'est pas grave. Mais pour moi, j'avais dit, hey, on va se parler en français. Puis quand il y aura un anglais qui va embarquer dans la conversation, on parlera en anglais. Mais là, sac nous patience.
C'est quand même drôle pour tout ça dans un pays canadien.
Non, ça c'était aux États-Unis.
Je vais essayer à Vancouver.
Ben, en fait, c'est juste un cas qui nous ramène aussi que, tu sais, au bout du compte, je sais que c'est démagogique des fois comme phrase, mais ça devrait être simplement une question de gros bon sens. Alors, tu sais, comme tu dis, si t'es entre francophones à ce moment-là précis, ben c'est correct, c'est en français. Ouais. Ensuite de ça, que le coaching se fasse en anglais, ça peut être aussi compréhensible. J'ai oublié pas que dans les équipes de la LHGMQ, t'as tout le temps deux Européens, souvent des gars qui viennent d'Europe de l'Est, qui déjà même apprennent l'anglais, sont ici de passage, vont probablement continuer, même si c'est pas dans la Ligue nationale, veulent quand même aller jouer dans la Ligue américaine, veulent se donner les chances de faire carrière pro. Alors, tu sais, je pense que c'est correct aussi. L'autre chose qu'il faut pas oublier et qu'on écarte quand il y a des situations qui éclatent comme ça, c'est qu'il y a également, par contre, des anglophones, des Canadiens qui viennent d'autres provinces qui repartent avec quand même un certain bagage de français, même si tout se passe supposément en anglais en termes de coaching. On l'a vu à Montréal, Paul Byron, ça a été ça. Le Paul Byron, c'est pas un franco-ontarien. Tu sais, des fois, les gens disaient ça, franco-ontarien. Non, c'est un gars d'Ottawa qui venait d'une culture anglophone, qui a appris le français en baignant justement là-dedans, puis rencontré une fille du Québec, tout ça. Et puis, ben, ça fait en sorte qu'il arrivait chez le Canadien, puis était capable de donner des entrevues en français. Justin Barron, même chose, c'est un gars des Maritimes, puis lui, ben, il donne pas ses entrevues en français parce qu'il se sent pas assez à l'aise, mais on est autour de lui, on fait des entrevues, on lui pose des questions en français, il comprend très bien. Donc, tu sais, il y a plein de cas comme ça qui...
J'ai entendu en tête. Logan Mailloux aussi.
Logan Mailloux qui le parle exactement. Lui, je pense qu'il est un peu de culture franco-ontarienne. Donc, c'est ça. Mais tu sais, il y a des cas comme ça à gauche, à droite. Liam O'Brien, qui joue pour les Coyotes de l'Arizona, un autre gars des Maritimes, il est passé à Montréal il y a quelques semaines. Puis
Barzold parle français.
Oui, exact. Mais lui, c'est pas de la LHJMQ, par contre. Mais c'est l'immersion. Mais c'est ça. Mais il y a des gars qui passent par ici et qui en ressortent quand même avec une certaine maîtrise du français.
Mais là-dedans, dans le cas précis des voltigeurs, c'est une chose que les joueurs peuvent écrire des choses en anglais dans le vestiaire ou quoi que ce soit, se promener avec des t-shirts en anglais, mais la direction doit être au courant. En fait, non, la direction doit être certainement consciente que ça se peut là, que ça soit mal reçu, que ça se ramasse dans l'espace public, puis que ça crée un mini-scandale. Je pense que ça appartenait à la direction vraiment de faire quelque chose avec ça. Moi, c'est plus ça qui me déçoit. T'sais, les joueurs, t'sais, malheureusement, en tout cas, c'est comme ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup, beaucoup de leur réalité à eux qui se passe en anglais, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les communications. Évidemment que l'anglais est très présent, puis bon, c'est une réalité. Mais après ça, tu as la direction qui est là puis qui devrait être en mesure de dire « Ouais, écoutez, on pense que ça, c'est peut-être pas une bonne idée. » Moi, c'est le bout qui me déçoit vraiment.
Mais moi, oui. Juste pour clôturer par rapport au débat linguistique et tout ça, pourquoi c'est juste en Amérique du Nord, puis ce que je veux dire, c'est pas juste en Amérique du Nord qu'il y a ces débats-là. Tu sais, je regarde au soccer, quand tu vas jouer à l'Inter Milan, là, ça se passe en italien là-bas. Tu t'organises, tu joues pour l'Inter Milan, tu t'organises. Tu sais, je pense que culturellement, pour être capable d'être assez fort puis de se dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, si ça fait pas ton affaire, ben, tu sais, il y en a d'autres équipes, va jouer pour d'autres équipes. Je pense que faut que tu sois assez fort en tant qu'organisation pour dire on fonctionne de cette manière-là. Ouais. Puis je parle de l'Inter Milan. Tu parles juste à Barcelone, c'est la même affaire. Les Français, que ça soit à l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, il parlait pas un mot espagnol quand il est parti de France pour aller jouer là. Il l'a appris, c'est organisé. Maintenant, il donne des entrevues en espagnol comme si c'était la langue de Molière pour lui. Tu sais, c'est ça pareil. Fait que je trouve que on devrait encourager plus ça puis être encore davantage fier. Tu sais, puis là, on fait des parallèles. Un joueur du Canadien, quand ça fait 10 ans que t'es au Québec, pour moi, ça devrait être obligatoire. Mais on n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture-là de dire... puis ça part probablement du haut de la direction parce qu'on ne voit pas ça ainsi. Parce que le propriétaire, c'est un anglophone. Fait que c'est pas des valeurs qui poussent nécessairement. Mais pour moi, si j'étais propriétaire du Canadien, ça serait impératif. Quand je vois Brendan Gallagher à TVA Sports dire TVA Sports, j'ai le goût de vomir. Ça me dérange. Ça me dérange. Mais ça fait 10 ans que t'es là.
Ouais, c'est ça. Je pense que C'est vrai dans le cas de Gallagher, dans le cas de Carey Price, c'est qu'ils ont été si longtemps. Mais ce que je voulais dire, Antoine, puis peut-être que tu peux me corriger si j'ai tort, mais je pense que malheureusement, les Gallagher, les Price là, qui passent presque une carrière avec le même club, c'est évidemment plus rare maintenant. Puis je pense que malheureusement, les joueurs se disent, bon, ben peut-être que je vais jouer ici 4 ans, 5 ans, à quoi ça sert? Moi, je pense que c'est un petit peu ça, peut-être, qui vient jouer là-dedans. Parce que dans les années 70, je reculais un peu pas mal, beaucoup, il y avait plein de joueurs anglophones, les Dryden, les Robinson, les Bob Gainey, tous ces gars-là parlaient français, étaient capables de donner des entrevues en français. Parce qu'à l'époque, tu sais, à moins d'être échangé, ça ne te rentrait pas dans la tête de dire je vais jouer ailleurs à un moment donné. Tu débarquais ici et tu pensais que tu allais probablement passer ta carrière en entier. Alors, je pense que les joueurs se sentaient plus le besoin de s'investir parce qu'elle allait être ici 10 ans, 15 ans.
Maintenant, c'est une erreur de le penser que tu ne dois pas t'investir.
Je pense que c'est une réalité, non? Je pense que c'est ça, là.
Ah, clairement.
Probablement que ça fait partie de la réalité, mais quand tu commences avec une organisation, faut que tu te dises que tu veux passer ta carrière, là. Tu sais, je pense que c'est l'état d'esprit avec lequel tu arrives. Bien entendu, le hockey étant ce qu'il est, tu peux changer d'organisation. Mais ouais, je pense que la prémisse de base, ça devrait être que je pouvais passer ma carrière ici. Puis, tu adviendras ce que pourra. Oui.
Mais les gars, juste vous dire, on va conclure là-dessus. Je pense que là-dedans, il y a un petit peu d'opportunisme politique aussi, présentement. Il y a un petit peu d'opportunisme politique. Et j'ai goût de dire à Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, si c'est un problème de voir des jeunes avec un T-shirt écrit quelque chose en anglais dessus, j'ai plein d'autres faits où le français n'est pas nécessairement porté bien haut à travers le Canada, où on pourrait mettre beaucoup plus d'emphase. Mais clairement, il faut débuter avec quelque chose qui est facile. C'est un chandail dans un vestiaire de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Donc, écoutez, on peut pas être contre la vertu, c'est impossible. C'est vrai. Ils ont raison, la ligue va corriger, vous avez raison. Maintenant, le plat qu'on en fait aujourd'hui, je pense que ça c'est un petit peu démesuré. On va s'arrêter et au retour, on se fait un spécial Vendredi Saint et là, je vous le dis, non, on parlera pas de la bagarre entre le Canadien et Nordique, je vous le dis.
Ah non, ça fait.
Moi la violence.
Mais Richard, ça me tente de parler de ça.
Je suis pas capable de la violence. On s'arrête là-dessus. On est de retour au balado Sortie Zone. Les gars, on se fait un petit spécial Vendredi Saint, j'allais dire Saint-Valentin, c'est pas pareil, c'est différent. OK, fait que donc, j'ai utilisé des thèmes liturgiques de ce week-end de la Pâque pour qu'on se parle un peu de hockey à travers la Ligue nationale. OK, puis là, on va faire ça vite quand même, parce que tu sais, on a des thématiques à aborder, on va faire ça vite. OK, donc, je vous demande, quel joueur ou dirigeant vous fait descendre tous les saints du ciel? Vous savez ce que ça veut dire, les saints du ciel, c'est que là, ça sacre des fois, tu sais, puis ils sortent, un joueur ou dirigeant à travers la Ligue nationale de hockey, vous avez compris, je commence avec Guillaume.
Ben, moi, je vais être plate, j'ai pas de joueur ou de dirigeant parce que je garde une certaine distance par rapport à tout ce que je couvre, donc tu sais.
Oh, que t'es mature pis t'es professionnel, mon Dieu.
Par contre, ce qui me fait choquer, c'est des arénas qui sont mal foutues. Alors, l'aréna des Sénateurs, à Canada, à l'autre bout du monde, et quand je dis l'autre bout du monde, l'aréna est à l'autre bout du monde, et quand t'arrives à ta place en haut, t'es également à l'autre bout du monde. Alors, des arénas mal foutues comme ça, celui des Hurricanes également, en banlieue de Raleigh, même chose, t'es à deux codes postaux de la patinoire quand t'es assis en haut. Moi, c'est ça qui me fait choquer.
OK, tabar bip pour l'aréna des Hurricanes et des Sénateurs d'Ottawa. Richard, qui fait descendre tous les saints du ciel quand tu penses à ça?
Dale Hunter.
On avait dit pas de bataille, Richard.
Tu veux parler du Vendredi Saint? Arrête, Richard, mal commode.
Écoute, ben moi, j'ai compris ta question comparativement à Guillaume. Alors, je vais répondre de la bonne manière. Non, je comprends ce que Guillaume dit, parce qu'effectivement, on n'a pas.
Oui,
on
oui.
prend pas contre personne, puis on n'est pas contre personne. Oui. Mais. Et là, peut-être qu'Antoine ne m'aimera pas, mais moi, j'ai de la misère avec les joueurs qui passent leur temps à transgresser les règles. Ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Moi, il y a quelque chose qui s'appelle le fair play que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, je comprends l'intensité, puis je comprends que jouer physique, 100%. Mais Radko Gudas, l'an passé, là, c'était une honte. Si les arbitres de la Ligue nationale de hockey avaient appliqué les règlements, ce gars-là aurait passé les séries au complet, au banc des punitions. J'ai rarement vu ça. Écoute, à chaque occasion, accroche, retient un gars, croque en jambe, coup de bâton en arrière des pieds, coup de bâton en arrière du dos, accroche encore, tombe sur un gars, coup de coude d'en face. Écoute, ça a été de même pendant 4 tours jusqu'à temps qu'il se fasse sortir par Barbashev en grande finale. Puis quand c'est arrivé, j'ai comme un peu célébré. J'ai comme célébré un petit peu en cachette. J'ai dit, aïe, OK, il vient de se faire pincer, ça n'a pas de bon sens. Je pense que j'ai jamais vu un gars tordre les règlements comme Radko Gudas l'an passé, puis je trouvais ça déplorable.
C'est-tu quoi, JR? Richard est aucunement hypocrite. On joue dans la même ligue de hockey le dimanche et Richard fait toujours preuve de fair play sur la patinoire. Alors, il est conséquent dans ses actes avec ce qu'il dit. Alors,
voilà. C'est le fun, ça t'honore ça, Richard. Bravo. Antoine, maintenant, qui t'a fait descendre tous les saints du ciel?
Moi, il joue pour les Panthers. Lui également. Il joue pour les Panthers. Puis c'est Nick Cousins. Pour moi, tous les saints et les diables descendent quand je le regarde jouer. Ma blonde n'est tout simplement plus capable que je regarde une game des Panthers parce que je dis tous les mots du petit Jésus quand je regarde ce match-là. Quand je pars et je le regarde jouer, ça vient me chercher au plus haut point. Et donc, c'est ce joueur-là qui vient me chercher. Donc, chez nous, on n'a pas vraiment le droit d'écouter une game des Panthers.
OK.
Mais c'est bizarre, Antoine. Hein? Moi, je me souviens de lui, puis Guillaume aussi, quand il jouait pour le Canadien, il était pas comme ça.
Il était comme ça. C'est juste qu'il jouait pour ton équipe.
OK.
Dans ce temps-là, t'as l'élastique beaucoup plus long. Ouais, c'est jamais ça. Trop grave. C'est pas grave. Oh, il a fait ça. Oh, j'ai pas remarqué. Oh, ouais.
Ouais. C'est toujours pratique quand c'est dans ta formation, ça, c'est sûr. OK, les gars, moi, dirigeant Carl Dubas. Carl Dubas, pour moi, lui, il me fait halluciner quand il est avec les Leafs de Toronto. Me fait halluciner avec les Pingouins de Pittsburgh. Et s'il réussit un tour de magie, à deux tours de magie avec les Pingouins, je lui dirais bravo, mais d'ici temps-là, c'est lui qui me fait descendre tous les saints du ciel. Maintenant, comme le Chris, qui effectue le meilleur retour? Hey, ça, j'ai travaillé fort. T'sais, vous savez, le Chris, il est mort, il revient de dimanche, je sais pas. OK, Guillaume?
Wow.
Jonathan Drouin.
Jonathan Drouin,
c'est un des très beaux retours de l'année et c'est un gars qui va avoir ses votes pour le trophée Bill Masterton, je crois, parce que franchement, il a pas vécu nécessairement six belles années de joie et de bonheur à Montréal. Alors, de le voir rebondir comme ça avec l'Avalanche, presque 18 minutes par match, premier avantage numérique, se dirige vers une saison d'au-dessus de 50 points. Très bonne nouvelle pour lui, pour un gars qui a toujours fait preuve de classe et tout ça, même quand ça allait mal et qu'il y avait beaucoup de monde sur son dos. Alors, chapeau.
Richard, de ton côté?
C'est-tu trop tôt pour répondre Jake Allen?
Ça se peut que dans 3 semaines, ça vieillisse mal.
Ben bon, écoute, mais en ce moment, jusqu'ici, une étoile la semaine dans la Ligue nationale.
Ben oui.
Oh ouais, non, ok, je fais des blagues, puis malheureusement, j'ai été obligé de faire une blague parce que Guillaume m'a volé mon choix. Fait que je trouve ça bien plate que Guillaume ait parlé avant moi. Mais écoute, je me rallie, je pense que l'histoire de Jonathan Drouin, tu sais, on fait des blagues, puis c'est vrai, là, on n'est pas là pour prendre pour personne, mais il arrive de temps à autre que tu as un joueur comme ça. Que tu regardes aller puis que tu dis hey, lui c'est le fun, tu sais, c'est je suis tellement content pour lui. Puis l'autre c'est Charlie Lindgren pour de vrai, tu sais, qui était vraiment un bon gars là, tu sais, c'est le genre de gars que tu rencontres dans le vestiaire, il va te jaser pendant une demi-heure de temps, tellement un bon gars. Puis de voir que présentement non seulement est-ce qu'il participe au succès de son club à Washington, mais qu'en plus qu'il vit un genre de renaissance. On pensait tous que c'était terminé pour lui. Moi, quand je vois les histoires comme Charlie Lindgren, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant.
Antoine, de ton côté?
Pour moi, c'est Juraj Slafkovský. En début de saison, si tu m'avais dit, Antoine, tu vas changer ton fusil d'épaule et tu vas voir naître ou renaître un jeune joueur puis sortir de sa coquille de la manière dont il l'a fait. Pour vrai, c'est pas un retour en tant que tel, donc je sais pas si ça s'applique totalement à ta question, mais cette progression-là, elle est tout simplement incroyable et c'est ce jeune-là, il le mérite énormément.
Moi, j'ai donné un petit coup de chapeau à Anthony Duclair. Anthony Duclair avec le Lightning de Tampa Bay qui joue du bon hockey. Je trouve ça le fun de le voir comme ça, être capable de connaître du succès. Et on termine avec deux semaines à faire à la saison. Qui est votre petit coco de Pâques? Ah, vous avez compris le principe, là. C'est comme votre coup de cœur, un petit coco de Pâques. C'est cute, Guillaume?
Je vais y aller pour une équipe, moi, mais les Jets de Winnipeg qui auraient pu complètement imploser l'an passé. Alors, de voir comment ils sont revenus, tu sais, je vous ai chapeau à l'organisation, chapeau à Rick Bonus, chapeau à Kevin Cheveldayoff qui a réussi à garder tous ensemble, et en plus, qui est allé chercher Toffoli, Monahan, de bons ajouts. Regardez, on sait jamais, on n'arrête pas de parler des 31 ans sans coupe au Canada. Je ne crois pas que les Jets sont nécessairement l'équipe pour ça, mais ils nous ont tellement fait mentir jusqu'ici depuis le début de l'année que franchement, c'est bravo. Puis tout ça dans des circonstances pas faciles, on le sait, avec des gradins qui se vident un petit peu. Puis donc, tu sais, franchement, ce que ces gars-là accomplissent sur l'Atlas, c'est impressionnant.
Richard, petit coucou de Pâques.
Ben écoute, j'ai toujours un faible pour les clubs, tu sais, qu'on n'attend peut-être pas, puis que je trouve ça peut devenir le fun. Puis là, ils ont mal paru jeudi soir, mais tu sais, les Flyers, je pense pas que beaucoup de gens les voyaient dans le portrait des séries. Ça a toujours été un marché que j'ai aimé. J'aime aller là, j'aime l'ambiance là-bas, j'aime le partisan intense de Philadelphie de manière générale. Puis je pense qu'on s'attendait absolument rien d'eux autres. Puis tu vois, bon, on verra s'ils vont être encore là dans deux semaines. C'est loin d'être fait, mais c'est quand même un club qui, je trouve, qui est un peu une belle surprise cette saison. Puis là, ben écoutez, le bon John Tortorella est toujours divertissant. Alors comment peux-tu aller contre cette équipe-là?
Surtout qu'il va avoir un gardien de but maintenant, Ivan Fedotov, qui s'est amené de la KHL, qui est rendu maintenant avec les Flyers de Philadelphie. Antoine, on va terminer avec toi, ton petit coco de Pâques.
Moi, c'est Wyatt Johnston. Puis on en a parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, mais simplement incroyable. Pour de vrai, ce que ce jeune joueur de 20 ans-là, il joue à Dallas, puis il passe pas nécessairement, je vais dire, sous le radar, parce que il joue dans une grosse équipe, mais on n'en parle pas assez. C'est quand même 28 buts, 29 passes, 57 points à seulement 20 ans dans la Ligue nationale. S'en va vers une saison au-dessus de 60 points. Vraiment impressionnant. C'est mon coco de Pâques.
Et moi, petit coco de Pâques, je vais avec Patrick Kane. Malgré son âge, je trouve le moyen de marquer des buts avec une hanche d'aluminium. Ça fait plus quick-quick. Puis il est capable de patiner. Vraiment, il m'impressionne grandement. Les gars, ce fut un plaisir. On vous souhaite une joyeuse Pâques. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous. Merci, Guillaume. Ce fut un plaisir encore une fois.
Merci, JR.
Richard Labbé, toujours un plaisir. Thank you, Richard.
Ouais, merci, JR.
All right. Et Antoine Roussel, un grand plaisir. Merci beaucoup, Antoine.
Merci les gars. Bye bye. Joyeuse Pâques à tous les auditeurs aussi.
Merci. Donc, on vous souhaite une joyeuse Pâques et nous, on se reparle mercredi le 3 avril.